Octobre 1800, Le Havre. Sur fond de rivalité entre la France napoléonienne et la perfide Albion, le navigateur Nicolas Baudin prend la mer pour une expédition scientifique exceptionnelle vers les terres du Sud, l'Australie et la Tasmanie. Deux navires, avec à leur bord 22 scientifiques, partent pour près de 4 ans à la découverte de ces nouveaux mondes, de leurs populations indigènes, mais aussi de leur faune mystérieuse. Jusqu'au 26 novembre, c'est au Musée national de la Marine, à Sydney, que vous pouvez voir une partie de cette collection de dessins et d'artefacts prêtés par le Musée du Havre. Jean Fornaciero, chercheuse à l'Université d'Adélaïde et spécialiste des voyages de Baudin, nous parle du destin du fameux capitaine et des dessins de ses artistes.
Nicolas Baudin, à l'époque où il est parti en Australie avec son expédition, était un des explorateurs français ou des voyageurs scientifiques les plus connus de son époque. Il a été un peu oublié depuis 200 ans, mais sa réputation est en train de se rétablir grâce à des expositions comme celle qui est à Sydney en ce moment. Baudin a été incorporé dans la marine et il a pu faire le voyage aux terres australes. Un voyage que lui-même a proposé à l'empereur. Malheureusement, son expédition a été considérée comme un échec, plutôt pour des raisons politiques. Parce qu'en même temps que l'expédition Baudin cherchait à explorer les dernières côtes inconnues de l'Australie, un navigateur anglais, Matthew Flinders, est parti en même temps. Et il a pu explorer la plus grande partie de ces côtes inconnues avant que Nicolas Baudin y arrive. L'autre raison, c'est que le grand nombre de scientifiques à bord a été un vrai problème pour Baudin, qui n'arrivait pas à contrôler les produits de leurs travaux. Il pensait que tout le monde devait partager les résultats de ses travaux. C'était un problème entre deux générations différentes. Baudin se sentait étranger sur son bateau. Le voyage a duré 4 ans. Ça s'est déroulé en 2 phases. Le voyage entre l'Europe et la Tasmanie. Et c'est pendant cette partie du voyage que l'expédition a récolté énormément de spécimens. Avec tout ce qui a été ramené comme spécimens, le voyage a été incontestablement une grande mission scientifique. Mais les scientifiques qui étaient les plus proches de Baudin sont morts de maladies tropicales. Et il est parti en deuxième campagne de Sydney vers l'île Maurice, c'est là où il est arrivé en 1803 et là où il est mort. Lors de son séjour à Sydney, il a compris certaines choses politiques, les résultats de la colonisation, le sort assez triste des aborigènes de Sydney.
Comment les décririez-vous, ces illustrations réalisées par les artistes de Baudin, Le Sueur et Petit? Qu'est-ce qu'elles ont de remarquable et que disent-elles selon vous de la perception scientifique européenne ou même française sur ce nouveau monde?
Les dessins font partie des grandes réussites de l'expédition. Nicolas Baudin avait un rôle à jouer là-dedans, puisque c'est lui qui a embauché 2 jeunes artistes qui ne faisaient pas partie de l'équipe de scientifiques nommée par le gouvernement. Il avait embauché 2 jeunes gens pour illustrer son journal de bord. Quand les autres artistes sont partis, ils faisaient partie de ceux qui ont quitté l'expédition à l'île Maurice pour poursuivre d'autres carrières. Les 2 jeunes artistes ont été formés pour l'illustration scientifique. Ce qu'ils ont réussi, d'abord, des portraits d'indigènes. C'est Nicolas Martin Petit qui a fait la plus grande partie de ces dessins-là. Ce sont des portraits très sympathique de leur sujet. Les sujets ont un nom, c'est-à-dire c'est des individus qu'on peut reconnaître facilement. L'attention aux détails de leur scarification, de leurs habits, etc., est très, très détaillée. On peut, par exemple, identifier des colliers qui sont faits par des aborigènes et que l'on sait encore aujourd'hui pour les dessins de le sueur, des animaux indigènes de l'Australie. Ils donnent une impression d'étrangeté, d'exotisme. On voit des animaux qui ont plutôt un caractère anthropomorphique presque. Donc ce sont des dessins dans les deux cas qui sont très très attachants et qui ont dû former une opinion très favorable de la beauté de tous ces êtres et de tous ces animaux. Ce n'est que quand le sueur lui-même est mort, en France, après son retour, que ces dessins ont été donnés au Muséum du Havre, dont il était le premier directeur.
Mmh.
Et les dessins ont été très peu vus par le public avant le XXe siècle. Mmh.
Et donc, c'est la première fois en Australie qu'ils sont exposés.
Non, ce n'est pas la première fois. C'est la première fois qu'un tel nombre de dessins vient en Australie. Et donc, des dessins qui montrent tous les aspects de la collection.
Est-ce qu'il y a, par exemple, un dessin qui vous parle particulièrement, auquel vous êtes particulièrement attaché?
Ça va peut-être surprendre, mais j'adore cette petite carte de Sydney. C'est une aquarelle qui normalement aurait dû paraître dans l'Atlas du voyage, mais au lieu de choisir ce petit dessin exquis, on a choisi une carte beaucoup plus technique, en noir et blanc. Dans tous les coins du dessin, on va voir quelque chose qui n'appartient pas du tout à Sydney. Par exemple, il y a une petite image d'une partie de la baie du Géographe qui est en Australie occidentale. Pourquoi incorporer ça dans une carte de Sydney? C'est excentrique parce que ça contient des éléments de toutes les grandes réussites de l'expédition. Il s'agit des choix de Le Sueur en tant qu'artiste et non pas Le Sueur en tant que dessinateur scientifique. Et à mon avis, ça montre beaucoup plus sa personnalité que d'autres images des animaux, etc., que je trouve formidables, mais je n'ai pas de favori parmi tous ces beaux dessins.